Bonjour à tous, vous êtes confortablement installés sur les ondes batraciennes du 88.8 et nous sommes aujourd'hui aux archives départementales Gaston Defer à Marseille où se tient jusqu'au 21 janvier prochain l'exposition du bateau à la cité, l'enfermement à Marseille, 18e-20e siècle. Une exposition sous la direction scientifique et artistique de Philippe Artière et Ludovic Burel. Cette exposition vous invite à découvrir 5 espaces successifs que le visiteur curieux est invité à traverser: la mer, l'île, le port, la ville, les grands ensembles, des lieux différents où se retrouve la figure toujours changeante et protéiforme de l'enfermement. Alors aujourd'hui, pendant une heure, il sera question des chaînes du port. Venez embarquer, montez à bord, c'est une invitation au voyage. Un voyage qui, comme dans l'exposition, nous amènera des mers lointaines et agitées jusqu'au port contenant et compartimenté. Un voyage pour questionner l'enfermement à Marseille. Un voyage que nous ne ferons pas seuls, car nous sommes en compagnie de Philippe Artière, historien et bien plus encore. Bonjour Philippe Artière. Alors vous êtes historien, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes également président du Centre Michel Foucault et ancien rapporteur du Conseil National du SIDA. Vous développez depuis 15 ans une série de recherches sur l'histoire des écritures ordinaires au 19e et au 20e siècle, des recherches qui croisent plusieurs disciplines, l'histoire, la philosophie, la littérature, mais également l'anthropologie criminelle, avec des publications comme Le Livre des vies coupables, Autobiographie des criminels, 1968, Année politique, et vous préparez un ouvrage à paraître en janvier 2012, si je ne m'abuse. Alors cette exposition, dont vous êtes le commissaire, qui s'appelle « Du bateau à la cité, l'enfermement à Marseille », a été réalisée sous votre direction, avec la collaboration de Ludovic Burel. Comment avez-vous travaillé au croisement des disciplines pour réaliser cette exposition ?
D'abord, ce qu'il faut que je précise, c'est que c'est d'abord une invitation de Jacqueline Hirsch, des archives départementales des Bouches-du-Rhône à venir ici travailler et à venir ici d'abord me plonger dans ce qui constitue probablement les plus grosses archives départementales en France, avec une liberté. Ce qu'on reproche souvent aux archivistes, c'est qu'ils nous interdisent d'entrer dans les magasins. Donc je ne suis pas forcément rentré dans les magasins, mais en salle de lecture, j'ai pu ouvrir les boîtes, et toutes les boîtes. C'est notamment pour cela que les visiteurs peuvent voir une série d'archives sur le centre de rétention d'Arinc, qui sont normalement des archives qu'on ne peut pas montrer et qu'on voit là sans pour autant pouvoir les ouvrir, mais il me semblait que déjà le fait qu'elles soient là, ça veut dire qu'elles sont à nous et qu'elles ne sont pas des archives seulement de la répression, pour parler un langage on va dire contestataire. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord une invitation à ouvrir les archives. Alors vous me direz, ouvrir des archives à des historiens, c'est généralement nous qui sommes avec les généalogistes, mais c'est pas seulement à ouvrir la porte des archives, c'est à aller voir n'importe où. Le n'importe où menant dans ce que ce qui peut être perçu comme des égarements. Je dois dire que l'ouverture des archives des douanes, un certain nombre d'éléments, mais un tout petit nombre d'éléments sont montrés dans l'exposition, et proprement une chose, on a vécu ça avec Florence Santoro, une chose absolument extraordinaire de voir ces documents qui n'ont été, ils ont été des collègues d'ici sont allés les chercher il y a quelques années, je crois, et depuis personne ne les a ouverts, mais la boîte était, avec toute sa sa bonne poussière, et ce sont notamment ces listes infinies d'objets à bord des navires qui rentraient ou sortaient du port de Marseille. Donc ça me paraît très important d'insister là-dessus, et doubler d'une autre invitation, qui s'est fait dans les règles, mais qui était celle d'associer un artiste, ou tout au moins un plasticien, quelqu'un qui avait un rapport plus esthétique et moins intellectuel que le mien, ou une autre forme de sensibilité aux archives, qui est Ludovic Burel.
Alors cette exposition s'intitule « L'enfermement à Marseille » et pourtant il ne s'agit pas d'une exposition sur la prison, vous ne vouliez pas faire une exposition sur le monde carcéral. L'enfermement dont il est question ici relève d'une autre forme de pouvoir. Donc ce n'est pas le pouvoir au sens classique du terme, mais une forme de pouvoir née avec l'époque moderne et nommée par le philosophe Michel Foucault le biopouvoir, un pouvoir sur la vie, un pouvoir sur les choses et les personnes. Il s'agit d'un pouvoir destiné à produire des forces, à les faire croître, à les ordonner plutôt que vous à les barrer, à les faire plier ou à les détruire, expliquait Michel Foucault. Un pouvoir donc plus ordonnant que totalitaire, un pouvoir qui contient et agence, qui ordonne et régule. Comment vous définiriez ce concept-là de biopouvoir ?
C'est-à-dire que l'invitation à venir ouvrir les boîtes était doublée d'une proposition thématique qui m'a fort déçu. Parce que l'enfermement, je trouvais que, refaire une exposition, c'était le moment où au musée Carnavalet, il y avait une très grosse exposition autour de la photographie et des prisons. Orsay organisait Jean Clerc a organisé avec Badinter une espèce de gros machin autour de crimes et châtiments. Donc je me disais moi j'ai pas envie de retravailler sur les prisons. J'étais venu ici dans le cadre de l'expo Castel où on avait parlé de la construction des baumettes, puisque Castel parmi ses nombreux chefs-d'œuvre a construit les baumettes et surtout il me semblait que s'il y avait une chose que je trouvais très stimulante dans les archives et dans des archives départementales, c'était un grain du territoire qu'on n'a pas dans les archives centrales évidemment. Et ce grain là, c'est celui de ce que Bruno Latour peut appeler la complexité ou le social. En ce sens, c'est le tissu, c'est vraiment les fils et l'entrelacement des fils. Et là, je me suis dit, on ne cesse de parler de ce concept de biopolitique, il est maintenant devenu quasiment le truc tarte à la crème. Essayons de travailler cette notion de biopouvoir, donc ce pouvoir que vous venez de redéfinir avec Foucault, cette idée que le pouvoir, c'est pas seulement un pouvoir qui enferme, qui réprime, mais c'est aussi quelque chose qui produit des objets différents, des figures, qui produit des villes, qui produit de la vie aussi. Est-ce que un lieu comme les archives des Bouches-du-Rhône, c'est pas un lieu pour travailler ça, le travailler au corps, le travailler dans l'épaisseur des liasses. Et puis on avait un petit peu de temps, et puis encore une fois, la richesse des archives permettait de tester, parce que ça c'est une chose qui pour moi est très importante, c'est que cette exposition, c'est une proposition, c'est pas un savoir d'un historien sur une période ou sur des lieux avec une certitude que ce qui est dit là c'est figé. Non, je pense que c'est une exposition en 2011 avec un certain nombre de savoirs qu'on a et aussi d'une certaine vision. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de tenir un discours révisionniste qui consisterait à dire qu'il n'y a que rien de que tout est rien n'existe et que tout est dans une fragilité absolue. Ce qu'il y a dans cette exposition, ce sont des gens. C'est la trace d'individus, de parcours d'individus dans ce qui constitue notre modernité depuis le milieu du XVIIIe et qui prend en grande partie la forme de registres et de listes.
Alors, l'exposition commence par la mer, évoquer la figure du bateau, et l'hypothèse que vous avancez, Philippe Artière, est que la mer elle-même, celle qui semble pourtant synonyme d'infini ou de liberté, que la mer elle-même et les navires qui la sillonnent sont eux aussi des lieux d'enfermement, de clôture et de mise à l'écart. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Philippe Artière ?
C'était de pousser le paradoxe que je viens de... d'expliciter, enfin le paradoxe, tout au moins l'hypothèse, cette hypothèse un peu choquante, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus dans l'idée, encore dans une actualité toute récente, qu'il y a un pouvoir qui réprime et des gens qui résistent. Et donc reprendre l'idée que la mer a pu, dans l'imaginaire, pour le dire très rapidement, et c'est pour ça qu'il y a un pêle-mêle de cartes postales, de la représentation de la mer par les peintres, comme un espace de calme ou de beauté, mais aussi à l'inverse de tempête et de comme un espace du côté de la liberté, niant toute une partie de ce qu'est la mer, à savoir d'abord un espace où on mettait à distance des gens, en l'occurrence les Galériens, même s'ils revenaient à Marseille, mais ils étaient quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a cette gravure où l'on voit les Galériens s'en prenant aux pauvres religieuses voisines de leur bâtiment, mais c'est aussi pour ça qu'il nous a semblé que la mer c'était aussi un lieu où on périssait. Donc il y a des archives absolument extraordinaires du côté du médical, où on voit des certificats de décès sur les bateaux, qu'on se perdait en mer avant d'avoir des cartes, etc. Culisse a bien du mal à retrouver son chemin. Donc ça, c'est vraiment cette idée-là, cette première idée qu'on se perd en mer, mais aussi que le bateau en tant que tel est un lieu... dont on ne sort pas et qui peut constituer une sorte de matrice de ce qui devient ensuite la cellule, y compris chez Le Corbusier, si vous voulez, que de la cabine du bateau à la cellule de Le Corbusier, au fond il y a une certaine continuité et d'ailleurs c'était un grand malentendu avec la fondation Le Corbusier, sans pour autant qu'on considère que la cellule de Le Corbusier soit une cellule de prison, enfin savoir que les appartements de la Cité Radieuse soient des cellules de prison.
Ça reste un espace compartimenté avec des fonctions propres qui est pensé de manière autonome aussi.
C'est cette idée en tout cas d'une clôture et d'une positivité de la clôture, ce qui d'ailleurs c'est pour ça aussi que les religieuses qu'on voit se sauver par les fenêtres font aussi partie du tableau.
Alors après, on passe dans une autre salle, on aborde l'île, on la voit en mirage, on y rêve, et les marins la découvrent souvent du haut de leur mât qui se dessine à l'horizon, une île qui peut être pensée comme un sas entre deux continents pour tenir à distance les prisonniers, comme ce fut le cas pour le château d'If, ou les malades. L'hôpital Caroline sur l'île du Frioul en est un parfait exemple. L'île peut-elle apparaître comme le lieu de l'enfermement par excellence, Philippe Artière.
Bon, ce qui est au centre de l'exposition, c'est essayer de penser une géographie de cette forme d'enfer, enfin, de ces formes d'enfermement, parce que ces figures au pluriel de l'enfermement. Donc, penser cette géographie, c'était effectivement d'abord regarder le paysage. Moi, je le dis sans honte aucune, cette exposition m'a permis, mais j'ai découvert Marseille à travers les archives. Je ne connais pas Marseille, j'espère demain pouvoir me promener un petit peu dans Marseille, mais j'ai eu la même expérience avec la ville de Lyon, et pour autant je ne pense pas que les archives trahissent les villes. Je pense qu'elles donnent à voir elles donnent à voir une certaine peut-être des certaines pas seulement des représentations, mais disons des géographies. Et c'est cette géographie-là qui fait apparaître pour moi, mais pour les Marseillais, c'est une sorte d'évidence, que le Frioul était quelque chose qui s'étenait entre le navire et le port. Mais que ce quelque chose dont on montre le livre d'or, qui est devenu un objet de un lieu touristique, le château d'If, qui a été un lieu imaginaire, assez génial de penser qu'on fait visiter la cellule du comte de Monte Cristo. C'est quand même une chose, moi je trouve, absolument magnifique dans ce que peut représenter dans l'imaginaire l'enfermement. Ça a été un lieu qui a eu une fonction aussi au centre de cette police, de cette manière de gouverner, avec le lazaret qui a d'abord été sur la terre ferme, puis sur au Frioul, et puis un hôpital, et puis surtout, ce qui va avec, la quarantaine, c'est-à-dire cette première terre, cet avant-terre, et qui n'est pas forcément, elle est enfermement et en même temps, elle est libératrice. Parce qu'elle permet, ce passage permet aux marins d'arriver jusqu'au port, et en même temps le port de le sauvegarder évidemment des maladies et notamment de la peste, ce qui est comme vous savez beaucoup mieux que moi la grande peur. Et puis après, il y a le choléra, il y a tout ça. Enfin, on en montre quelques exemples, mais il y a tout ça dans cette immense archive médicale des populations.
Je certifiais Thomas Jean le Révérend, chirurgien sur le navire L'Espérance de Granville, avant traité le nommé Laurent Adam, matelot à bord du dit navire, d'une diarrhée provenant de l'Amérique, avons commencé son traitement depuis le 5 juillet jusqu'au 30 octobre, dans lequel jour il est mort. Fait à Marseille, à bord du dit navire, le 1er novembre 1787.
Je, sous-signé chirurgien du navire Le Bon Père, capitaine Jean-Louis Jean Solène, déclare que le nommé Adorateur Gontaume, matelot, décédé le 16 janvier 1787, n'est mort d'aucune maladie contagieuse. En foi de quoi j'ai donné le présent pour servir et valoir, autant que de besoin, à bord du navire le cinquième jour.
Nous certifions et attestons que le sieur Jean Lebesque, capitaine du navire Les Deux Félicités, est tombé malade le 9 août, se plaignant d'un mal de tête, d'une douleur au dos, il battait la campagne. Décédé le 1er septembre à hauteur du cap Moulinero, distance de 6 lieues au nord de Marseille, le 20 septembre 1786.
Lorsque vous avez travaillé sur cette exposition-là, il y a une particularité quand même dans ces archives des Bouches-du-Rhône, c'est qu'elles sont quand même énormes. On en discutait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez aussi en dire un petit mot ?
Oui, elles sont énormes au sens où d'abord elles couvrent comme toutes les archives départementales normalement. Enfin, je dis normalement parce que moi je travaille parallèlement dans un département qui s'appelle la Manche. Qui est le seul département en France où les archives commencent en 44, puisqu'elles ont été bombardées et que la majorité, enfin, c'est une situation pour le conservateur très particulière puisqu'il n'y a que des archives contemporaines. Mais d'abord elles sont énormes du point de vue. Enfin, moi, je viens de Rome et Marseille et Rome ont quand même beaucoup de choses en commun. Mais il y a une dimension d'abord chronologique très forte, et puis il y a une ouverture thématique, classique, mais en même temps, c'est aussi là un des objectifs de l'exposition. Me semble-t-il, et sur lequel on s'est accordé avec les collègues archivistes, c'est de mettre en évidence que l'archive n'est pas qu'une archive spectaculaire, c'est pas seulement une belle archive, et c'est pas que des archives signées par des grands hommes. C'est aussi toutes petites choses, et dans l'exposition il y a des toutes petites choses. Même ce qu'on a choisi de montrer, une des pièces du musée d'histoire de la ville de Marseille, les petites cordes, vous voyez, ces petites cordelettes qui viennent des fouilles de la bourse, c'est des toutes petites choses, mais c'est ça qui, enfin, c'est un peu le symbole, c'est un peu ça qui, je dis, vaste de ce point de vue-là, et vaste aussi parce que elle reflète l'histoire des archives, l'histoire contemporaine des archives, au sens où une partie des dernières salles ont été constituées grâce au dépôt par des associations travaillant dans les baraques, bidonvilles et autres camps, aux archives départementales. Ce qui est une chose qu'on a vu se développer depuis l'anniversaire de la loi des associations, donc 1901, et qui a largement nourri de nouveaux dépôts dans les archives départementales. Donc on a ce type d'archives, et puis on a des archives très classiques ici dans les Bouches-du-Rhône, enfin très classiques, des archives départementales, mais Marseille étant ce qu'il est pour toutes sortes de raisons, mais c'est pas une, enfin, par l'ampleur aussi du port, etc., des archives de police fabuleuses. Enfin, je le savais parce que les collègues d'Aix, Marseille. Voilà, travaille beaucoup sur, mais c'est des archives absolument extraordinaires, les archives de police qui sont ici. On en montre un petit peu, et pour vous donner une idée, par exemple sur le quartier réservé, qui est un des autres espaces SAS, comme ça, sur lequel on pourrait, qui est l'hôtel.
Qu'on découvre dans l'exposition aussi.
Qu'on découvre dans l'exposition après Lille, après le port, la douane. L'hôtel, eh bien, dans les archives des quartiers réservés, il y a ça, toute une documentation assez passionnante sur des rues, parce que c'est vraiment classé par rue, sur des autorisations d'ouverture de maisons de rendez-vous. Et c'est pas des autorisations, c'est pas de l'archive qui serait croustillante, c'est pas l'archive de la préfecture de police de Paris Je pense à ça, c'est une contre-publicité, mais typiquement de livres où on voit des prostituées, etc. Non, c'est l'archive où une dame demande au préfet si elle peut ouvrir une maison à tel endroit avec tel nombre de filles, etc. Point. C'est extrêmement, c'est pas du tout spectaculaire. Et j'espère que l'exposition n'est pas spectaculaire.
Maison de tolérance, femmes soumises libres, prostitution clandestine. Aucune maison de prostitution n'est tolérée dans les rues commerçantes, ni dans le voisinage des établissements publics, des casernes, des maisons d'éducation et des édifices consacrés au culte. Un quartier spécial leur est assigné par un arrêté de Monsieur le maire, régissant la matière en date du 30 octobre 1878, approuvé par Monsieur le préfet le 9 novembre de la même année. La clientèle bourgeoise ne fréquente que les maisons fermées qui sont au nombre de 12. Une seulement, dite de première catégorie, dont le prix pour la nuit varie entre 5 et 10 francs, est ouverte depuis 1872 et a été exploitée depuis cette époque par 3 propriétaires. Les 11 autres maisons, dites de deuxième catégorie, ont toutes été ouvertes à peu près à la même époque. Les prix de cession varient entre 2 et 3 francs pour le jour et de 5 francs pour la nuit.
Là, l'idée, quand je dis ça, c'est que c'était de montrer que l'archive était aussi... Les archives, puisque c'est la proposition qu'on fait, on ne montre pas une pièce, on montre une pile, une liasse. Il y a très peu de documents uniques. En fait, on a beaucoup joué... Sur cette dimension-là, ce volume. Vous me disiez en quoi c'est volumineux. C'est d'abord volumineux parce que ça prend beaucoup de place. Et par ailleurs, c'est volumineux parce qu'il y a sur une page, il y a peut-être 20 individus, il y a 40 vies, il y a, enfin, et ça, je trouve que comme, enfin, je trouve que c'est une, moi j'aimerais bien que cette exposition-là, ce soit aussi une exposition qui soit une exposition de rencontre avec, alors c'est un côté un peu sensible comme ça, on rencontre des gens dans les papiers, mais on a mis dans le hall des objets, mais ces objets, ils sont habités par des tas de vies. Et moi, j'aimerais bien, en tout cas, que dans l'exposition, ce soit pareil. C'est-à-dire que la liste des objets sur le bateau, c'est des objets qui ont été manipulés par des marins. C'est des objets qui ont voyagé, etc.
Alors on se retrouve tout de suite après à l'écoute d'une pièce de circonstance, une archive sauvée des eaux. C'est tiré d'un ensemble de pièces nées d'un dégât des eaux ayant endommagé des bandes magnétiques. Et plutôt que de sauvegarder ces archives en les dupliquant, le compositeur Luc Ferrari a préféré composer à partir de ce qui avait été sauvé. Alors sur ces bribes de mémoire récupérées in extremis, il a proposé au musicien Eric M d'intervenir dans le cadre d'une création originale à Milan. On écoute tout de suite la quatrième archive sauvée des eaux par Luc Ferrari et Eric M. Thank you. colonisation, un terme galvaudé, un phénomène qui n'est pas récent et pourtant nous rappelle souvent l'augmentation sans précédent des échanges de marchandises après la Seconde Guerre mondiale. Comme une phase d'accélération de la mondialisation, des importations, des exportations, des déplacements de personnes, émigration et immigration, une accélération des échanges, une ouverture des frontières qui pourrait nous laisser croire que le port de Marseille est une zone d'ouverture, une zone de passage, de libre-échange, ouvert sur le monde et sur la Méditerranée. Mais vous nous rappelez, Philippe Artier, à juste titre, à travers cette exposition, que le port est une zone fermée. Arrivé au port, avant d'atteindre la ville, il faut encore traverser un ensemble de lieux. Certains ne pourront pas aller plus loin, bien et personne, sans retenue en douane ou en centre de rétention. Frénésie de contrôle et d'étiquetage, quelle forme a pris et prend encore l'enfermement sur le port de Marseille aujourd'hui ?
Cette archive du port, elle dit d'abord une chose qui était pour moi une découverte bien, bien naïve, mais que c'est le port de Marseille avait tout un ensemble de services et notamment une police qui veille à Marseille avec et d'où la une certaine modernité d'ailleurs de la thématique, une définition très précise qui est, je crois, dans le volume qu'on publie à l'occasion de l'exposition et qui est publié avec les archives des Bouches-du-Rhône, sur le clandestin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un clandestin et qu'est-ce qu'une bonne denrée, qu'est-ce qu'une mauvaise denrée, et qu'est-ce qu'un bon marin et un marin qu'on rejette, et qu'est-ce qu'un bon migrant et un migrant qu'on subit, voilà, tout ça traversé par ce qu'on appelle, moi j'aime pas cette expression, mais ce qu'on appelle la grande histoire. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, Marseille, enfin pas seulement au XXe siècle, mais en l'occurrence, puisque c'est une des périodes qu'on a beaucoup travaillé dans l'exposition, Marseille est un lieu particulièrement fort pour l'histoire, par exemple, de la décolonisation. Bon, et il y a... je ne crois pas qu'on les montre tous, mais il y a des documents absolument passionnants sur l'arrivée à la fois des rapatriés, sur les bateaux qui, les bateaux militaires et civils, qui ont fait le rapatriement, sur les harkis et l'arrivée des harkis. Qui ne devait pas s'arrêter à Marseille. Très clairement, il y a des lettres de... Je dis ça parce qu'il y a une exposition sur les harkis. Marseille ne devait pas accueillir de harkis. D'ailleurs, les harkis sont partis sur le plateau du Larzac, dans les Causses, en Aveyron. Là où il y a eu après, vous savez, dans les années, au début des années 70, ces luttes autour du camp militaire. Mais c'est là-bas, donc ils sont partis en train jusqu'à la gare de Lyon. Donc, tout ça pour dire que le port, dans ce qui pourrait apparaître comme figé, c'est-à-dire, en fait, est un lieu qui est absolument traversé en permanence par l'histoire et même qui est le lieu où véritablement les vagues de l'histoire viennent, si j'utilise cette métaphore, viennent frapper sans cesse. Et il y a beaucoup de traces. J'ai déjà parlé du centre de rétention d'Arinc, dont on peut suivre l'histoire, à la fois l'histoire de la contestation de ce centre, une zone de non-droit, donc non inscrite dans le code administratif, c'est-à-dire que c'est des lieux qui ne sont régis par aucun droit. Et parallèlement, il y a les douanes qui sont là je dirais, totalement du côté de justement du régime administratif et de l'inscription infinie de l'entrée et de la sortie. Et puis il y a tout ce qui relève d'une de ce que tous les gens qui ont un peu travaillé sur les ports, et puis il y a eu beaucoup d'expositions sur les ports ici, ce qui relève de l'entrée et la sortie des bateaux, c'est-à-dire de la description matérielle, donc d'une histoire matérielle de la marine. Avec la description, je l'ai déjà dit, mais ça m'a été pour moi tellement saisissant, de la moindre boîte de conserve qui partait sur un bateau était décrite. Donc un côté quasi oulipien, quasi extrêmement littéraire finalement, au regard de peut-être de la manière dont aujourd'hui on écrit la littérature contemporaine. Ça, c'est une dimension sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, d'ailleurs.
C'est-à-dire que, à l'image de ce qu'on vient d'écouter de l'archive qui avait été retravaillée par Luc Ferrari et Eric Hem, comment on peut mêler aussi une recherche, puis comment on peut utiliser l'archive dans un processus de création, une démarche qui vous attire particulièrement?
C'est plus d'ailleurs à l'invitation des archives, enfin des archives, des, j'aime bien ce terme-là, des gens des archives, les gens des archives, que ça se fait. Quand je dis que ça entre en résonance, c'est que il me semble que ces archives sont pas forcément un matériau pour l'écriture, sont pas forcément et l'exposition de ce point de vue-là peut être très. Enfin, j'aimerais bien que dans un voilà qu'on puisse avoir cette discussion-là. On essaiera de l'avoir au début, enfin la mi-janvier ici même, autour de rencontres sur montrer et voir. Et voir l'archive. Est-ce que on peut incorporer de l'archive? Est-ce qu'on peut tordre, comme les deux artistes que vous nous avez fait écouter l'ont fait? Est-ce qu'on peut tordre l'archive? Et dans l'exposition, il y a certains. Ça fait partie aussi du risque qu'on a pris avec Ludovic Burel. On tord certaines archives, on les déplace. C'est-à-dire qu'on introduit dans une série un élément d'une autre série. C'est une manière aussi, peut-être, de sortir de l'histoire, de sortir en tout cas d'une pratique historienne de l'archive. Ce qui me semble aujourd'hui, moi, c'est un peu mon souci, et c'est pour ça que je suis là, je suis à la Villa Médicis, donc pas dans un cadre d'historien, mais un cadre plutôt artistique. C'est mon souci après la lecture d'une œuvre comme celle de Georges Sebald. La lecture de Sebald, donc de ce romancier mort au tout début des années 2000. Et une lecture qui me semble, pour tout praticien de l'histoire, absolument troublante dans notre écriture de l'histoire.
De stockage, d'arts de réparation, zone d'embarquement, dépôt remorque.
Poste à remorqueur, poste 190.
Pont levant, portique à palettes, entrée
terminal
fret,
terminal MPCC,
poste
terminal
à remorqueur, poste 190.
Eurocargo, Transco Satal.
Delmos Ganas,
terminal fruitier, terminal MPCC, terminal 1, terminal à sucre.
Traversé, traversant.
Hangar 18, cru de 119.
Trafic roulier, produits forestiers, dépôt liquide.
Entrepôt EM, moule BC, Kajika.
Dars de réparation, moule de l'abattoir.
Avant-port nord, bassin est.
Avant-port
du large, bassin de Radouble.
Digue du large.
40 tonnes utiles, Eurocargo, Transco-Satan.
Bureau des douanes, contrôle phytosanitaire, température d'ici.
Logistique. Gare maritime, basse sous-marine, vrac aluminium.
Phares et balises,
trafic routier,
basse sous-marine,
service
sécurité, syndicat CGT,
bureau des douanes,
zone d'embarquement, entrée vive,
phares et balises, service exploitation, service sécurité, syndicat
terminal
CGT,
terminal fruitier, terminal MPCC,
Delmos Ghana, le Salerno, l'île de beauté, l'éclipse.
Delmos Ghana, le Salerno, l'île de beauté, l'éclipse.
De quelle manière cette exposition a questionné justement votre pratique de l'histoire et de la façon de la travailler?
Bah, d'abord parce que c'est une exposition qui s'est faite. Enfin, on a toujours l'impression que l'historien arrive dans les archives et qu'il arrive tout seul et qu'il trouve tout seul, etc. Donc c'est d'abord une exposition qu'on a faite ensemble. Enfin, je tiens à le dire, je l'ai déjà évoqué rapidement, mais c'est ensemble. Qui connaît mieux les archives que les archivistes et personnel des archives des Bouches-du-Rhône. Donc c'est d'abord ça, et c'est des outils, c'est des inventaires en ligne. Donc aujourd'hui, on peut regarder de chez soi ce qu'il y a dans cette maison, ce qui est quand même assez extraordinaire. On peut le regarder dans un inventaire, donc qui ne fait que décrire. Mais donc on peut venir voir des choses, ce qui est encore là encore, c'est l'idée que cette maison, j'allais parler comme mon père parlait de la maison du peuple. Vous savez, ces espèces, les archives, c'est un lieu à nous. Donc comment, avec des outils et surtout avec des gens qui vous montrent, parce que les archives, faut pas croire que c'est une grue qui les prend de d'un service administratif et qui les pose aux archives dans ce beau bâtiment. Il y a un traitement d'archives. Et bon, de plus en plus, les historiens sont associés au traitement d'archives, mais il y a beaucoup de travail qui se fait sans les historiens. Et ça, c'est les expositions sont l'occasion de voir ce travail, pas seulement pour trouver une pièce, mais pour balayer un fond. Je prends un exemple qui relève d'archives privées, puisqu'il y a des dépôts aussi, des gens qui déposent des archives en leur nom propre, pas seulement des administrations. C'est les archives, alors c'est un statut un peu particulier, mais c'est les archives du commissaire du port de Marseille, dont j'ai oublié le nom, enfin le commissaire qui a sévi après la guerre jusqu'aux années 70-80. Bon, et bien dans ces archives, il y a toute une. Grâce à l'inventaire qui avait été fait, j'ai pu attraper des tas de choses, notamment sur, je sais pas moi, la question des entrées et sorties de clandestins, qui sont des choses que je n'aurais pas pu trouver seul. Donc c'est une archive humainement partagé. Et par ailleurs, c'est important de le dire parce qu'on a, quand on pense archives et informatique, on pense toujours numérisation, mais c'est d'abord des inventaires. Et ça, c'est une chose extrêmement utile, importante.
J'aimerais vraiment vous faire réagir sur une très belle citation de Michel Foucault que vous aviez relevée sur l'image du navire dont on évoquait la figure au début, que je vous lis. Si l'on songe que le bateau c'est un morceau flottant d'espace, un lieu sans lieu qui vit par lui-même, qui est fermé sur soi et qui livré en temps, en même temps à l'infini de la mer et qui de port en port, de bordée en bordée, de maison close en maison close, va jusqu'aux colonies chercher ce qu'elles recèlent de plus précieux en leur jardin, Vous comprenez pourquoi le bateau a été pour notre civilisation, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, à la fois non seulement bien sûr le plus grand instrument de développement économique, mais la plus grande réserve d'imagination. Le navire, c'est l'hétérotopie par excellence. Dans les civilisations sans bateau, les rêves se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure et la police les corsaires. Qu'est-ce que cette fin de citation vous inspire ?
C'était une citation qui était à l'origine de l'exposition, et même à l'origine du premier scénario de l'exposition, mais qui était très, très spontané comme ça, était de, que le bateau qu'on voit, le film, le fameux film du bateau, du baptême du bateau, ce soit pas ça, mais ce soit simplement un plan à distance du port d'Alger. Qui soit une photo d'Alger la Blanche au fond, dans l'autre salle, les photos que vous pouvez voir, le diaporama de Mathieu Pernaud de la cité Calistée, et que entre les deux il y ait une malle avec les consignes des colons. Vous savez que les colons au 19e pour l'Algérie, avait des consignes très précises quant au contenu de ce qu'il devait apporter. Pardon. Donc, il y a ça dans la citation. La citation de Foucault est quand même très étrange parce que, très ambiguë dans la mesure où il semble dire qu'au fond. Le bateau, c'est le bateau des conquistadors, c'est le bateau des colons, c'est une formidable réserve d'imaginaire. Oui, pas seulement. Et en même temps, c'est aussi ce qu'il voit, ce que le bateau rapporte. Ça me plaisait bien cette idée-là, c'est-à-dire cette idée au fond que même si c'est chaotique, même si toute la dernière partie de l'exposition est extrêmement chaotique, en même temps c'est toute la. J'aime pas cette terminologie-là, donc j'aime pas cette idée de richesse dans la différence, etc. Je dirais que et puis ça me touche d'en parler ici, parce que c'est quelque chose qui s'est, enfin, sa mort s'est produite au moment où je faisais l'exposition. Pour moi, Marseille, de ce point de vue-là, est une ville de la créolisation, qui était cette notion. Cher à Édouard Glissant, et c'est ça aussi le bateau. Le bateau, il dessinait toujours dans ses livres, quand il les signait, une caravelle. Pour lui, qui était quelqu'un qui avait évidemment un rapport à l'esclavage extrêmement critique, mais il dessinait une caravelle, la caravelle de Colomb. Et pour moi, la citation de Foucault, elle renvoie à ce dessin de Glissant et à cette idée de créolisation, et que Marseille, c'est chaotique, c'est difficile. Tout le monde trouve ça vraiment, vraiment, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est le monde. Et c'est le monde. Enfin, moi, j'ai le sentiment que pour moi, il y a deux lieux où c'est le monde. Par rapport à, je vois, Rome, c'est la gare du Nord ou Marseille. Là, c'est le monde. Et je trouve que je sais pas, si l'exposition peut dire un peu ça, peut dire un peu que c'est pas. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai malentendu avec la Fondation Le Corbusier. C'est que c'est pas. Le chaos, tout ça, c'est extrême. Ça produit des choses. Ça produit des choses qui sont. Ça produit pour le coup des imaginaires inédits et qui sont bien plus. Bon, là, c'est vraiment. Au-delà d'exposition, ça produit quelque chose qui est devant nous. Et c'est. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que à Rinck, c'est bien. Non, si on a mis à Rhin, c'est pour montrer aussi que ces stockages, ces rétentions, ça, c'est aussi, il y a toujours du résidu du disciplinaire, du désir de conquête, du désir de puissance, enfin, de ce souci de d'imposer à l'autre sa puissance.
C'est des choses qui ne se retrouvent pas forcément tout le temps dans les mots, mais qui sont en surface, dans les non-lieux, dans les interstices que vous décrivez, que vous essayez de montrer dans cette exposition. J'aimerais vous faire écouter tout de suite un extrait d'une dérive poétique et sonore d'Olivier April, qui a été réalisée pour Arte Radio, qui s'appelle « Les mots et les sons du port de Marseille ».
Des reflets, rien que des reflets, des échos, rien que des échos. La sirène, la rouille, la moire, le tirant d'eau, l'arrivée, le départ. La ligne hauturière, la coquille à matière, le bruit de la mer. La surface d'expression, la surface d'inscription. Traverser, traversant, marcher sur l'eau. Traverser, traversant, traverser, traversant. Marcher sur l'eau, à la surface des eaux. À la surface des sons, à la surface des choses, à la surface des mots.
Voilà, c'était juste pour donner un petit peu à entendre aussi cette création radiophonique et ce qui était possible de découvrir dans cette exposition que vous avez réalisée aux archives départementales de Marseille. Merci beaucoup, Philippe Artière.
Merci.
Je vous remercie de cette heure, pour cette heure en votre compagnie. Remercions également le public qui a répondu présent, ainsi que Jérôme Galician et toute l'équipe des archives qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et merci à Sébastien Gély qui était ce soir à la technique. Radio Grenouille et les archives départementales de Marseille vous donnent rendez-vous le vendredi 9 décembre pour une journée de débat autour de cette exposition « Du bateau à la cité, l'enfermement à Marseille ». Une exposition, je vous le rappelle, que vous pourrez venir découvrir jusqu'au 21 janvier prochain aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Alors la journée du 9 décembre sera animée par Xavier Thomas qui recevra de nombreux intervenants, notamment l'association Ancrage, l'architecte Jean-Lucien Bonillo, Yvan Gasteau, Nicolas Mémin, la compagnie des Pas Perdus et bien d'autres pour une réflexion sur les transformations des modes d'habitation à Marseille. Du bidonville à la cité, un rendez-vous culturel et radiophonique qui est prévu pour le 9 décembre aux archives départementales Gaston Defer à Marseille et sur les ondes de Radio Grenouille. Vous retrouvez tout le programme sur le site internet des archives et sur radiogrenouille.com.